France Inter, le 6-9 du week-end.
C'est une enquête sur, vous l'appelez un commando, un club très fermé, le club des macronistes à l'Élysée, ces trentenaires dévoués au chef que vous rebaptisez ces dévoués, les apprentis de l'Élysée, le livre paraît chez Plon, un livre que vous co-signez, Pauline Thévenot et Jérémy Marot, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Pauline Thévenot, vous êtes journaliste politico-parisien aujourd'hui en France, Jérémy Marot, vous avez les mêmes fonctions à l'AFP. Les apprentis de l'Élysée, le titre de votre livre, car une chose est de conquérir le pouvoir et une autre est de l'exercer. Alors pour savoir d'abord de qui on parle, hein, Pauline Thévenot, ce commando, ce sont en partie des anciens qui socialistes qui ont, pour certains, traîné dans la mouvance du candidat DSK en 2007.
Oui, absolument, mais pas que. Ce sont ces personnes qui ont accompagné Emmanuel Macron dans sa conquête du pouvoir, puis dans l'exercice du pouvoir les deux premières années du quinquennat. Il y a effectivement une petite bande de trentenaires qui s'étaient rencontrés autour de la candidature de Dominique Strauss-Kahn à la primaire PS de 2006. Mais il y a aussi des députés, d'anciens députés socialistes qui se sont rassemblés autour d'Emmanuel Macron au moment de l'examen de sa loi Macron à l'Assemblée nationale et au Sénat quand il était ministre de l'économie.
Voilà. Et au final, feront partie de ce commando tous ceux à qui on demandera d'installer une appli sur leur smartphone pour des messages cryptés. Ce club,
Jérémy Marot, hein,
et une appli russe en plus. Ce club, il entretient depuis le début une sorte de culture du secret, Jérémy Marot.
Oui, c'est un peu ce qui les lie, ce qui les caractérise. Vous évoquez cette messagerie cryptée qui a été installée dès le départ. Ça fait partie des prérequis pour entrer en Macronie. Et d'ailleurs, c'est très drôle. On voit au fur et à mesure les rallier quand on reçoit une petite notification. Un tel s'est inscrit sur Telegram, donc l'appli russe. Ça veut dire que ça y est, il a rejoint ce club. Sur la culture du secret, c'est prégnant et on le voit sur chaque grande décision qui est prise. Tout est fait dans un très petit cercle, c'est le cœur nucléaire autour d'Emmanuel Macron, et il y a très peu de choses qui filtrent. Et je pense que à cet égard, voilà, les annonces qu'on attend cette semaine.
On va en parler tout à l'heure, oui, effectivement. Culture du secret, également culture du chef. Quel rapport ils entretiennent mutuellement entre d'abord, c'est vertical, mais d'abord du haut vers le bas, puis du bas vers le haut.
Pour revenir sur un instant sur la culture du secret, c'est constitutif de la façon dont ils se sont créés, puisqu'il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron a créé son parti, qu'ils ont créé En Marche, tandis qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie de François Hollande, et que donc il ne fallait que rien ne filtre de ce qui allait être finalement une
forme de trahison. Ça donne une séquence assez anecdotique, on va en parler un peu plus tard. Je voudrais juste qu'on revienne sur les rapports. Quel rapport Emmanuel Macron entretient depuis le début avec ses troupes? Il les presse comme des citrons.
Absolument. Alors sur le culte du chef, évidemment, ils se sont constitués autour de sa personne. Donc c'est ce qui explique ce culte du chef. Et tous disent qu'effectivement, Emmanuel Macron est un chef. C'est comme ça qu'il l'appelle. On l'appelait au QG de campagne d'En Marche pendant la présidentielle, le chef. Et quelqu'un de très exigeant, qui demande beaucoup et qui peut envoyer, alors il est très adepte lui aussi de la messagerie Telegram,
des textos
jour et nuit, nocturne, avec des commandes.
Et il demande toujours comment tu sens les choses.
Absolument.
Il demande à beaucoup de personnes.
Alors ça, c'est son message récurrent qu'il envoie tous azimuts pour lancer ses capteurs.
Des troupes pressées comme des citrons jusque à prendre des risques de bugs au sein de ces équipes qui, on rappelle, hein, vous les appelez les apprentis de l'Élysée, ils ont dû apprendre à écrire des discours très vite et les remodeler jusqu'au dernier moment. Ça donne des séquences parfois un peu de l'improvisation, non?
Oui, c'est ce qu'on raconte dans le livre avec le discours du Congrès. C'est le premier grand discours d'Emmanuel Macron en tant que président de la République, donc devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles.
Il l'a réécrit jusqu'à la dernière minute.
Et jusqu'à la dernière minute, il maintient ses équipes en tension, il réécrit. Donc on raconte cette scène où Sylvain Faure, qui était sa plume, avec Ismaël Emelien, son conseiller spécial, réécrivent assis dans le couloir de Versailles, avec une connexion internet pourrie, une circonstancie, tout ça, c'est très drôle.
Et ça ne sort pas.
Ça finira par sortir. Entre l'entrée et le plat, et le plat et le dessert, Emmanuel Macron renvoie des ajouts jusqu'à la dernière minute.
Donc des troupes autour d'Emmanuel Macron, finalement, vous rappelez que Emmanuel Macron gouverne seul. Quand vous écrivez ça, est-ce que vous nous refaites le coup du le pouvoir solitaire, ou est-ce que chez Macron, la solitude du pouvoir, c'est plus marqué que dans les précédents quinquennats?
Emmanuel Macron, il a une caractéristique. Évidemment, c'est la palissade de dire que le pouvoir isole. La tour d'ivoire de l'Élysée, ça, on entend ça tout le temps. En revanche, Emmanuel Macron, il a une caractéristique, et ça, tous ses proches le disent, c'est à quel point il tient à sa liberté. Et c'est notamment pour ça que sur des discours, il peut faire réécrire et réécrire jusqu'à la dernière minute, ou en déplacement, changer le déroulé, ou se moquer de tenir les horaires. C'est quelqu'un qui a toujours besoin de se sentir libre et jamais enfermé. Et cela vaut aussi pour les cercles et les entourages, pas
ça
prisonnier
vaut
d'un cercle.
Et il y en a un qui aura très bien su capter ce besoin de modifier au dernier moment les programmes établis, c'est Alexandre Benalla, c'est votre premier chapitre. Cet amateurisme au palais présidentiel, vous le déclinez donc avec cette affaire Benalla. Dès le début, à partir du moment où l'Élysée fait sa première réunion de crise, il y a deux clans à l'Élysée, ceux qui veulent éliminer, exfiltrer Benalla de l'Élysée, et puis les autres. Et ça crée déjà aussi ce que vous allez apprendre, cet amateurisme, ce que l'on apprend dans votre livre, cet amateurisme un peu à l'Élysée.
Alors, la première chose qui est symptomatique à l'Élysée...
Mais une semaine déjà à répondre.
Voilà,
à
c'est,
du
c'est
monde,
ce temps de latence exactement où... La Macronie est statufiée, comme tétanisée. Elle n'arrive pas à comprendre ce qui est en dehors de son logiciel et qui lui arrive, qui lui tombe dessus. Mmh. Quand ça sort de la feuille de route établie, ça, la capacité d'appréhension de ces moments-là les tétanise. Et donc, dans l'affaire Benalla que vous évoquez, il y a ces trois jours où on ne sait pas ce qui se passe, où personne ne réagit, personne ne prend la main, parce que tout tourne autour d'Emmanuel Macron qui ne réagit pas.
Et donc, il le fait à chaque fois. Ça
il
va
le
se
fait à chaque fois. Ça se vérifie bah, avec
crises.
Les gilets jaunes. Etc.
À la maison de l'Amérique latine, il s'est rattrapé.
Il se rattrape, mais il met 6 jours pour se rattraper. Oui. Et entre sur ce laps de 6 jours, donc il y a ce petit déjeuner de crise dont on parle dans le livre, qui est notre anecdote, où là, on s'aperçoit que c'est le moment où le petit cercle, le premier cercle autour d'Emmanuel Macron, celui qui l'a aidé à conquérir le pouvoir, se resserre de lui-même dans l'appartement de Sylvain Faure, sa plume, et reprend la main.
Pauline Thévenot.
Ce qui est frappant dans cette anecdote-là, c'est ce qu'elle dit de leur mode de fonctionnement. C'est-à-dire que, d'un, s'ils se retrouvent ce samedi matin-là pour petit déjeuner chez Sylvain Faure, c'est parce que justement, Sylvain Faure se dit « mais il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu de réunion de crise, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et par ailleurs, ce qu'on voit, c'est que le réflexe, c'est immédiatement de se retrouver avec ce club des sept, ce commando de la campagne. Et détail qui a son importance hors les murs de l'Élysée.
Oui. Et le Premier ministre apprend l'affaire Benalla dans la presse le 18 juillet.
Oui. Vous dites que l'apprenti Benalla, dans votre livre, l'apprenti Benalla a su profiter de la désorganisation ambiante à l'Élysée pour pousser le curseur le plus loin possible. L'Élysée, sous Macron, depuis le départ, c'est une désorganisation à tous les étages. C'est bien ça ?
Alors ça, on ne peut pas dire que ce soit uniquement caractéristique du quinquennat Macron. C'est un mode de fonctionnement, la machine élyséenne. On a du mal à le croire, mais qui finalement est assez désorganisé. C'est pas du tout un fonctionnement comme en entreprise. Il y a les missions des services sont pas toujours bien définies.
Il y a beaucoup de cloisonnement même entre les entourages.
Oui, absolument. Il y a du cloisonnement, des missions pas toujours définies. Mmh. Et pour qui voudrait profiter de ces interstices, eh ben c'est possible. Par ailleurs, effectivement, il y a ce côté, ils sont tous nouveaux à ce niveau-là du pouvoir. Donc forcément, ça accroît aussi la désorganisation.
Et on l'évoquait à l'instant, finalement, il y aura cette phrase prononcée en conclusion. Enfin, c'est la première fois que cette phrase sera improvisée dans la cour de la Maison de l'Amérique latine, je cherchais. Qu'ils viennent me chercher, et les assistants vont découvrir, et quelques ministres vont découvrir ça en direct.
Vous parliez d'Édouard Philippe qui n'a appris les choses donc que par la presse, l'affaire Benalla. Vous posez cette question, combien de temps restera-t-il ? En fait, il ne fait pas vraiment partie du cercle, Édouard Philippe.
Bah, c'est là un peu la pièce rapportée.
C'est la prise à droite.
Voilà, c'est les cousins de la droite. Alors ils sont arrivés.
Il est quand même Premier ministre.
Il est quand même Premier ministre. Et on s'aperçoit que tout ce petit monde de gauche et de droite est lié par une chose, le programme présidentiel. Et dès qu'on sort un petit peu de la route, type les gilets jaunes, on revient sur des histoires de clivage gauche-droite, tout ça réapparaît, ressort. Mmh. Et c'est le cas avec le Premier ministre qui est dans la famille, mais si...
Et qui n'a pas un rôle facile quand même, parce que d'ailleurs en ce moment, il dit tout le temps, on verra le moment venu, le président vous le dira, etc. Mmh. Il a c'est de la haute diplomatie.
Un rôle d'autant moins facile, on le raconte dans le livre, comment cette majorité a été constituée à l'Assemblée, qui a fait les investitures des députés La République En Marche. Et en fait, c'est ce petit commando. Donc finalement, Édouard Philippe est certes le chef de la majorité, mais d'une majorité qui a été constituée
choisie par d'autres.
Ex nihilo. Donc il n'est pas assis sur l'histoire d'un parti et par ailleurs choisi par d'autres, comme vous le disiez.
Nos deux invités ce matin, les deux journalistes politiques Jérémy Marot et Pauline Thévenot, vous co-signez, vous signez à quatre mains ce livre « Les apprentis de l'Élysée, grandeur et décadence de la maison Macron », le livre paraît chez Plon. Une autre illustration, un autre exemple d'amateurisme ou de légèreté chez Emmanuel Macron, et là c'est plus anecdotique, il faut remonter en janvier 2016 quand le président Hollande et Julie Cayet s'invitent à Bercy, chez les Macron, dans les appartements de Bercy. Je précise que deux jours plus tôt, dans ce même appartement, Emmanuel Macron avait fait une réunion très secrète avec des communicants pour donner un nom à ce qui deviendra En Marche. Je vous laisse raconter la suite.
Ben, François Hollande vient dîner dans les appartements de Bercy, visite, fait un tour.
Déjeuner, hein. Vous dites que c'est un déjeuner, pardon.
Vient déjeuner dans les appartements de Bercy, fait un tour. Ouvre les placards.
Ça se fait pas d'ouvrir les placards quand on n'est pas chez soi.
Il ouvre les placards. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais il le fait. Il ouvre les placards, s'extasie devant l'ordonnancement des cravates par couleur et manque l'essentiel qui sont des pancartes en bas du placard.
En marche.
Où il y a écrit En Marche. Et les premières pancartes, voilà, les storyboards, comme on dit.
Et François Hollande n'aura pas vu les pancartes non. En marche dans le placard qu'il a ouvert.
Cette anecdote que les lieutenants de la Macronie, ce petit commando de campagne, s'en amuse encore, elle est édifiante de ce qu'elle dit de la façon dont ils se sont constitués dans le plus grand secret.
Il y a quelqu'un dont on n'a pas encore parlé, c'est Brigitte Macron. Vous dites qu'elle indique le nord magnétique à son mari, à son président de mari. Qui veut répondre ?
C'est vous. Oui, alors c'est
Jérémy Marot.
Celle qui indique.
Alors, elle a un rôle politique, elle voit des ministres, elle discute avec eux, elle fait remonter les infos. Enfin,
déjà, elle a ce que personne d'autre n'a en Macronie, une vision à quasi 360 degrés de qui fréquente Emmanuel Macron et qui le sollicite. Personne ne sait combien de personnes Emmanuel Macron voit. Il y a une personne qui sait tout ça, c'est Brigitte Macron. Et puis c'est elle, effectivement, qui consulte certains ministres. On parle, par exemple, on sait qu'elle est très impliquée dans les questions de sociétales.
Elle voit Jean-Michel Blanquer,
Muriel Pénicaud, Sophie Cluzel, etc. Et elle fait remonter beaucoup de choses à Emmanuel Macron. C'est un capteur très important. Elle se déplace aussi beaucoup. Et elle lui fait remonter beaucoup de choses, elle aussi.
Alors, on parlait tout à l'heure de la culture du secret chez Emmanuel Macron. L'annonce des options retenues du grand débat, elles seront annoncées probablement lundi, enfin en début de semaine. D'ailleurs, vous avez des informations plus précises
Pas plus précises que ce début de semaine
entre lundi et mercredi. Voilà. Ces annonces, la plupart des ministres vont les découvrir en écoutant la radio ou en regardant la télévision. Pourquoi le président travaille-t-il ainsi dans le plus grand secret, en écartant les forces vives dans chaque ministère pour constituer ses propositions ? Que dit cette façon de travailler ?
Cette façon de travailler, elle dit sa façon de préparer les choses, c'est-à-dire que c'est toujours le même mode de fonctionnement. Il lance des capteurs partout, il consulte beaucoup, beaucoup. Ce qu'on pourrait dire familièrement, il se met en mode éponge. Alors il y a ce fameux SMS dont on parle « comment tu sens les choses ?» mais il y a aussi les consultations qu'il a auprès des parlementaires de la majorité, des ministres, de son premier ministre, des chefs de parti de la majorité.
Même d'anciens présidents de la République, il voit Nicolas Sarkozy, il voit Valéry Giscard d'Estaing.
Pas François Hollande, vous l'aurez noté.
Pas François Hollande.
Et une fois qu'il a vu tous ces gens, il y a aussi les piliers de la majorité, hein, François Bayrou, Richard Ferrand, ses conseillers, Philippe Grandjean, Alexis Kohler. Une fois qu'il a vu tous ces gens, qu'il a pris tous ses capteurs, toutes ses idées, il fait, ses équipes utilisent toujours le même terme, ils disent « il fait son miel ».
Il fait son miel, et pour les derniers arbitrages, on voit bien au sein de la majorité Macronie que les députés de droite semblent avoir un peu pris la main dans les derniers arbitrages par rapport aux députés plus à gauche. Ça génère quelques tensions en ce moment dans la Macronie ?
Oui, comme quasiment à chaque fois qu'il faut prendre une décision qui n'est pas prévue par le programme présidentiel. C'est-à-dire que cette majorité, elle est très plurielle, elle est très hétérogène. Ce qui fait que tant qu'on reste dans l'application de la feuille de route du programme présidentiel, on suit la ligne, ça fonctionne. Mais dès qu'il s'agit de répondre à une crise ou de créer, d'inventer des solutions, ces différentes sensibilités s'expriment. Et là, c'est là qu'on voit qu'ils viennent d'horizons politiques différents.
Alors parmi ces apprentis d'Élysée, pour reprendre le titre de votre livre, on note au bout de près de 2 ans qu'il y a pas mal de départs. 17 ont été, il y a eu un pot de départ pour, c'était à l'Élysée, hein, 17 départs de l'Élysée. Est-ce que les 2 ans n'ont pas généré finalement beaucoup de déceptions parmi cette jeune garde qui était montée à l'Élysée, entrée à l'Élysée avec le président?
Alors, ce qui est sûr, c'est que cette jeune garde est arrivée à l'Élysée pétrie de convictions et sûre qu'elle ferait mieux que le quinquennat d'avant, l'ancien monde, comme il l'appelait. Et puis, au bout de 2 ans, il y a l'exercice du pouvoir, cette usure, cette déception dont vous parlez. On s'aperçoit qu'à l'Élysée, on a peut-être moins de pouvoir que ce qu'on pouvait imaginer. On se heurte aussi au mur de l'administration, quelque chose dont il n'avait pas forcément l'expérience avant d'arriver. Et finalement, la mise en place des décisions, il y a l'axe Matignon-Bercy, ministres de droite qui n'étaient pas là dès le départ et qui ne font pas exactement ce qu'on espérait ou ce qu'on attendait d'eux.
Une usure de pouvoir et de la déception, hein, c'est ce qui explique ces nombreux
alors
départs.
Alors après, attention à l'effet trompe-l'œil aussi, ces gens-là, ces macronistes historiques...
Ils restent macronistes, mais en périphérie.
Voilà, ils restent dans l'écosystème. Sibeth Ndiaye, elle s'en va, mais elle devient porte-parole du gouvernement. Cédric O, qui était conseiller à l'Élysée, devient secrétaire d'État.
Benjamin Griveaux,
qui se lance dans la course à l'investiture pour la mairie de Paris, et ainsi de suite. Donc, s'il y a une prochaine campagne présidentielle, je ne mettrai pas ma main à couper.
On les retrouve.
Voilà.
Pauline Thévenot.
Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'Élysée, certains ont réalisé qu'à l'Élysée, on avait moins de peut-être de pouvoir comme conseiller ou d'influence que ce qu'ils avaient pu imaginer, théoriser. Et du coup, certains se redéploient sur des postes qui semblent plus périphériques, mais où finalement, ils auront peut-être plus d'autonomie et plus de poids pour peser.
Et ce que vous soulignez dans votre livre aussi, c'est que le destin d'Emmanuel Macron est vraiment intimement lié à celui de l'Union européenne. Les élections à venir sont importantes, elles sont cruciales.
Absolument crucial. C'est lui qui a lié son destin à celui de l'Union en faisant, et pendant sa campagne de l'Europe, l'un des marqueurs de sa campagne, et surtout de son quinquennat, en disant qu'il allait réformer l'Europe, presque comme il allait réformer la France.
Un dernier point, il nous reste quelques secondes. Dans notre nouveau monde, il n'y aura pas de favoritisme, déclarait le candidat Macron. Or, la nomination de Raphaël Rabatel à la direction de la communication de la Française des Jeux, au moment où cette société risque d'être privatisée, cette nomination, ça prête le flanc à la critique, car cette femme, même si elle semble compétente vu son CV, elle est aussi l'épouse de Gilles Legendre. Et Gilles Legendre, c'est le chef des députés macronistes à l'Assemblée nationale. Comment expliquer cette erreur d'appréciation qui risque de revenir en pleine figure comme un boomerang chez les macronistes?
S'il était cruel, je parlerais du côté hors sol, de la déconnexion, de cette difficulté à appréhender, sentir l'opinion publique. Et ça, c'est juste révélateur de l'inexpérience aussi de la pratique du pouvoir en Macronie.
Ça n'avait pas été envisagé que cette nomination pourrait faire des vagues?
C'est à se demander, j'ai l'impression que non.
Eh bien, on lira ces apprentis de l'Élysée, pour reprendre le titre de votre livre que vous signez à 4 mains, Pauline Thévenot, Jérémy Marot. Grandeur et décadence de la maison Macron, et ça paraît chez Plomb. Merci d'être venu en parler ce matin sur France Inter.
Merci à vous.